Badania europejskie.
Krastowiści na Europa.
Kuzymią tutaj Europę.
Stavrodromit z Europy.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Bienvenue dans un univers de saveurs et de goûts, celui que partagent les Européens. Sucré, salé, amer ou fumé, les Européens sont-ils sensibles aux mêmes mets? Du nord au sud, la mondialisation a-t-elle unifié leurs goûts? Au contraire, les Européens se sont-ils familiarisés aux plaisirs culinaires de leurs voisins? L'Europe, un monde de papilles gourmandes que nous allons découvrir en compagnie de nos invités. Bonjour Gilles Fumet.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en géographie culturelle de l'alimentation à l'université Paris-Sorbonne. Manger, c'est d'abord une histoire de géographie ?
Tout à fait, c'est découvrir ce que, découvrir l'autre en regardant ce qu'il mange et en souhaitant évidemment le manger par substitution avec sa cuisine. Je vous rappelle que Lévi-Strauss disait ceci, la meilleure façon de dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est de le manger. Évidemment, de manière symbolique.
Un peu pique, au sens figuré. En tout cas, je ne sais pas. Bonjour Luc Dumanchet. Vous êtes le fondateur et le directeur d'Omnivore, mais Omnivore, c'est quoi ?
Omnivore, c'est depuis 13 ans une revue qui est semestrielle de 200 pages. Et puis, c'est surtout une série d'événements culinaires à travers le monde. On a 9 destinations à travers le monde, 9 grandes cités dans lesquelles on fait des masterclass.
Alors, c'est quoi des masterclass ?
C'est inviter les meilleurs chefs, les meilleurs jeunes chefs créatifs du monde entier pour venir monter sur scène et faire une sorte de show rock culinaire devant un public qui est plutôt un public de professionnels. Donc, c'est très sérieux quand même. Et pour expliquer, pour raconter, pour échanger sur la cuisine contemporaine.
Alors, évidemment, il y a du public puisque...
Il y a du public, il y a beaucoup de monde qui vient, c'est plusieurs milliers de personnes chaque fois, dans une grande partie des grandes villes du monde.
Et le prochain, c'est à Paris, très bientôt.
Le prochain à Paris, du 8 au 10 mars, à la Mutualité.
Et tout le monde peut venir ?
Tout le monde peut venir, bien entendu.
Il suffit de s'inscrire sur
omnivore.com.
Giorgio Ravelli, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Vous êtes un chef globetrotteur, merci d'être en ligne de Londres, où vous étiez il y a quelques jours encore le chef du Ten Benz, un grand restaurant. Vous avez exercé vos talents presque partout en Europe. Hein. Alors, on va citer quelques villes où vous avez exercé vos talents. Par exemple.
Donc, par exemple, je commençais à Londres il y a une dizaine d'années et puis j'ai bougé à Berlin en Allemagne et j'ai fini à Montpellier dans le sud de la France. Donc j'ai fait presque un triangle
et vous revoilà à Londres.
Revenu ici.
Yerda Lamazir, bonjour. Hey, je serais tenté de vous dire.
Hey,
vous êtes la conseillère agricole et alimentation de l'ambassade de Finlande à Paris, un pays où, paraît-il, on ne mange pas très bien. Réputation fondée ou infondée?
On travaille beaucoup pour réparer cette erreur horrible que, effectivement, il y a eu un président de la République française qui a fait beaucoup
Jacques
de mal
Chirac
à notre
pour ne pas le nommer.
Beaucoup de mal à notre réputation culinaire. Heureusement que maintenant, quand même, l'image change. Il y a le côté naturel qui vient beaucoup aussi dans la cuisine, etc.
Donc, on va y revenir. Gilles Fumet, manger est bien sûr une activité essentielle de notre quotidien. Pour autant, nous ne sommes pas toujours conscients que l'agriculture, l'alimentation et parfois la gastronomie qui en découle sont d'abord le reflet de notre géographie. Alors, si la France est réputée pour son bien manger, ô combien diversifié, c'est d'abord parce que notre pays abrite une variété de reliefs et de climats, autrement dit de terroirs, sans oublier bien sûr de larges façades maritimes, et tout ça c'est de la géographie.
Oui, mais c'est plutôt l'assemblage politique de la France avec ses régions très différentes à partir de Richelieu, à partir du XVIIe siècle, qui va donc agréger en quelque sorte des régions qui n'ont rien à voir entre elles. Mais c'est vrai que entre les Pays Basques et l'Alsace, il y a rien de commun, et pourtant les rois ont voulu que nous soyons ensemble. Voilà, donc c'est moins la géographie physique en tant que telle que le résultat de cette volonté politique de vouloir faire un État, un grand État autour de la monarchie française et qui de fait a apporté une diversité culinaire qu'on a seulement découvert au 19e siècle.
Et je veux dire par là que lorsqu'on on est le roi de la République tchèque par exemple, on a quand même pas énormément de produits à sa disposition, on a du chou, des pommes de terre, etc. Alors que lorsqu'on est en France, il y a quand même une diversité de produits qui sont à la disposition.
Oui, mais ça c'est la taille. C'est la taille du pays et le fait que nous soyons situés, je dirais, à la frontière entre l'Europe du Nord, qui est l'Europe du chou, hein, pour faire simple, et l'Europe du Sud, qui est celle de l'olivier et de la vigne. Donc ça c'est vrai. Mais je dirais, cet assemblage, il n'a fonctionné qu'au 19e siècle, lorsque les produits ont commencé à circuler, et surtout lorsque les restaurants issus de cette invention de la Révolution ont fait arriver sur les tables des produits qui étaient inconnus ailleurs. Vous voyez, d'une région à l'autre, il y avait une forme forme de régionalisme culinaire qui s'est fractionné avec le chemin de fer, avec la République, on va dire.
Giorgio Ravelli, vous êtes un citoyen de la Suisse italienne, un citoyen du Tessin, comme on dit. Alors, la cuisine de votre enfance et la cuisine de la région où vous habitez, c'est à la fois la cuisine de la montagne et la cuisine déjà de l'Italie avec l'influence de la tomate, etc.
Oui, exactement. C'est un bon mélange entre la cuisine du nord d'Italie, donc la cuisine lombarde, de polenta, du risotto, des spécialités comme ça. Mais il y a aussi pas mal de spécialités, comme vous avez dit, de la montagne, de la région.
Donc du fromage, par exemple.
Par exemple, oui, de fromage, mais aussi des produits qui venaient cultivés et produits que dans la région du Tessin.
Et donc c'est quoi? C'est un mélange entre... Ça donne quoi? Il existe un plat régional du Tessin?
Oui, je pense... C'est tessinois, mais après, on le trouve aussi dans le nord de l'Italie. Je pense à la polenta avec un brasé de viande au vin rouge. Alors, ou de polenta avec des fromages gratinés au-dessus, avec des poires et des noix. Ça, c'est vraiment régional.
Alors, en Finlande, on n'a pas de maïs, ou pas, en tout cas pas à ma connaissance. Et la géographie et le climat sont plutôt rudes. Comment se sont organisés les Finlandais pour manger à partir... Voilà, qu'est-ce qui fait la base de l'alimentation des Finlandais?
En fait, il y a quand même de la nourriture toute l'année, parce qu'il y a quand même du gibier, il y a des vaches en Finlande toute l'année. En fait, c'est la Finlande, c'est le pays le plus au nord où on a de l'agriculture, le pays le plus septentrional. Et puis, il faut se dire aussi, certes, la saison végétale est très très courte, mais il est très intense, beaucoup plus intense que dans d'autres pays. Donc, en fait, les goûts ne sont pas du tout les mêmes qu'ailleurs, parce qu'en fait, les aliments poussent beaucoup plus rapidement, il y a beaucoup plus d'ensoleillement, parce qu'il y a le soleil 24 heures sur 24. Et donc, par exemple, les fraises, moi, je suis toujours un peu choquée quand je vois les Français mettre du sucre sur les fraises. Parce que pour moi, les fraises sont très très sucrées.
Elles
parce
se suffisent
ils sont beaucoup plus sucrées dans le nord, vraiment à cause du soleil 24 heures sur 24. Donc c'est beaucoup plus intense. Et en fait, les Finlandais sont organisés vraiment au rythme de la nature. Vous savez, à la Finlande, la nature est omniprésente. On est très peu nombreux sur un territoire qui est très grand.
5 millions sur un territoire qui est pratiquement aussi grand que la France.
Et donc, il y a de la nature partout. Il y a les forêts partout, il y a les lacs partout. Pour tous les Finlandais, d'aller pêcher dans un lac, même en hiver, même quand on fait un trou dans la glace et on pêche le poisson, etc. Pour tous les Finlandais, c'est naturel. Aller chercher des baies du bois, aller chercher des champignons dans les forêts, etc. Et préparer ça de manière très simple sur la nature, dans la forêt, au bord d'un lac, fumer le poisson qu'on vient de pêcher, etc. Comme ça que les Finlandais sont beaucoup organisés. Même les étrangers, souvent quand il vient en Finlande, le meilleur souvenir culinaire, c'est pas vraiment les choses très très sophistiquées comme en France, etc. Bien sûr, on a les restaurants très sophistiqués à Helsinki, on a des chefs étoilés, on a des chefs qui participent aux concours internationaux et qui ont beaucoup de succès. Mais souvent, les vrais souvenirs culinaires, c'est les choses très simples. Effectivement, le poisson pêché dans le lac Chélé, fumé sur place, ou les baies de bois ramassées dans la forêt, les champignons, enfin voilà.
Avec en plus, Jerta de Mazière, l'importance de l'histoire, car la Finlande a été sous influence suédoise par moments et sous influence russe à d'autres moments. Ça modifie les habitudes culinaires?
Oui. Effectivement, souvent on pense, bon, la Finlande, effectivement, sur la scène internationale, dans les concours culinaires, etc., on est avec les pays nordiques. Donc on a cette influence nordique des pays nordiques, mais on a aussi influence de l'Est, qui est assez marquante. Donc beaucoup des plats qu'on fait dans le four, qui cuisent pendant longtemps, etc. On a eu quand même des grands chefs des tsars, parce que les tsars passaient souvent les vacances en Finlande. Ils sont venus, donc il y a cette influence-là. Donc on a beaucoup aussi des tartes, des choses comme ça, qu'on faisait en Russie. Donc il y a vraiment cette influence entre l'Est et l'Ouest qui se trouve en Finlande.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, les Européens ont-ils le goût en partage? Salivent-ils devant les mêmes plats? Nous sommes avec Gilles Fumet, enseignant-chercheur en géographie culturelle à l'Université Paris-Sorbonne, avec Luc Dubanchet, fondateur et directeur d'omnivores, avec Giorgio Rabelli en ligne de Londres, Globetrotter qui était il y a quelques jours encore le chef du fameux restaurant Ten Bells à Londres, et Jarta de Mazière, conseillère agricole et alimentation de l'ambassade de Finlande à Paris. Alors Gilles Fumet, est-ce que la nourriture raconte qui nous sommes?
Et là, je crois que Madame de Mazière vient exactement de montrer ce qu'elle est pour les Finlandais, et enfin quand même en miroir de ce que nous pensons d'elle. Mais ce qui me frappe beaucoup dans ce qu'elle dit, c'est que quand elle parle des poissons qu'on pêche sur un lac ou des champignons qu'on va chercher dans la forêt, en fait, bien sûr, elle parle de nourriture, mais je pense qu'il faut déjà l'interpréter comme plutôt un acte social. C'est une nourriture ou c'est de la cuisine qui est plutôt dans la sphère du loisir. Vous voyez ce que je veux dire, qui n'est pas simplement quelque chose pour se nourrir, parce que de toute façon, les Finlandais ont accès à tous les produits du monde aussi, donc... Donc là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire. Voilà. Et les Finlandais, évidemment, sont bien obligés de se penser par rapport à ces saisons. Hein, et c'est important de dire que les fraises qui reçoivent le soleil 24 heures sur 24 sont mieux loties que celles qui sont dans des serres, même du Périgord, et qui sortent toutes très belles de l'INRA avec toutes les saveurs qu'il faut, mais qui évidemment n'égalent pas celles de la Finlande. Donc, vous voyez, dans la manière dont on parle de son rapport au territoire, en quelque sorte, on arrive à construire un imaginaire de la cuisine qui fait que chaque pays, parce que là on parle de Finlande, donc la Finlande, ça suppose que on imagine que la Finlande c'est différent de la Russie, c'est différent de la Suède. Or il y a quand même beaucoup de choses qui sont très proches, donc il y a une approche nationale aussi. Cette idée de faire que la Finlande soit aussi présente comme ayant une cuisine qui la représente, puisque vous avez parlé de plat national, donc vous souhaitez bien que finalement chaque peuple se représente par une cuisine. Je rappelle cette petite histoire assez merveilleuse des Canadiens qui cherchaient un plat national il y a quelques années, et qui font une enquête sur tout le territoire, et qui découvrent que le plat, parce que pour eux, plat national, c'était plat préféré, donc la question a été vraiment très mal posée, mais ils se sont vraiment plantés royalement, parce que le plat national, le plat préféré des Canadiens, c'était le pâté chinois. Oui, donc quelque chose qui était en fait un pâté parmentier. Un parmentier qui avait été fait pour des gens qui venaient travailler sur la construction des grandes transcontinentales ferroviaires. Vous d'accord. Voyez, et pour lequel on avait fait une sorte de menu qui pouvait être acceptable pour les Chinois. Mais pâté chinois, évidemment, pour le plat national, ça n'allait pas
inattendu.
Tout,
donc, alors, Ludwig Manchet, est-ce qu'il y a un aliment qui unit les Européens? Je serais tenté, j'ai envie de parler du pain, qui est évidemment important pour les Français, mais pas seulement.
Ben c'est l'aliment basique, alors on retrouve pas toujours partout, mais en tout cas il est largement répandu. Voilà, c'est quoi le pain? C'est du blé, c'est de l'eau et c'est du sel, avec dans des quantités différentes, avec aussi des techniques différentes et une manière de s'approprier justement ces trois éléments basiques de manière totalement différente.
Alors c'est vrai qu'on en trouve partout en Europe, de la farine, de l'eau,
oui,
et du sel.
Et du sel aussi. Ouais. Et on en rajoute plus ou moins selon les goûts, puis je crois aussi selon les époques. C'est pas la même manière de faire du pain à travers les siècles.
C'est quand même pas la même manière de faire du pain au nord et au sud, à l'est. Et à l'ouest.
Non, mais il y a aussi l'ajout quand on est au sud, parfois d'huile d'olive dans les préparations. Mais c'est aussi vraiment, je crois, des questions encore une fois de sol, de terroir là, et donc aussi de qualité de blé, mais aussi après, hélas, d'industrialisation, parce que voilà, l'industrialisation a eu cette grande, comment dire, ce grand défaut d'araser un peu la qualité des blés à travers la planète et en Europe évidemment, et donc avec des pains qui sont aujourd'hui un tout petit peu plus standardisés, un peu plus semblable, alors qu'il y avait des vraies différences de sol, tout simplement.
Giorgio Rabelli, vous qui avez fait le tour d'Europe, est-ce que le pain, on le retrouve un peu partout, à Berlin, à Montpellier, à Londres, mais Londres, c'était pas un endroit où le pain était particulièrement important dans la nourriture des Anglais, en tout cas, je crois. Est-ce que tout ça, c'est en train de changer?
Je pense que c'est en train de changer, parce que aussi, à Londres, comme les grandes villes européennes, a été influencé par les jeunes chefs, par les chefs étrangers qui sont venus travailler ici. Ils ont amené leur recette de pain, et ils ont amené aussi l'importance de faire du bon pain, parce que ça représente une partie très très importante du repas, de la table. Ça, C'est au début, ça doit être de bonne qualité. Ça, il a une très très bonne importance.
À Londres aussi, le pain de bonne qualité devient de plus en plus important dans l'alimentation des Anglais. Alors un autre produit de base, longtemps adulé, aujourd'hui un peu en difficulté, le lait. Le lait, c'est dérivé. La France est le deuxième producteur européen après l'Allemagne. Et dans notre pays, comme en Angleterre ou au Danemark, on boit et on cuisine avec le lait, c'est-à-dire le beurre ou la crème, car en théorie, c'est bon pour la santé. Maria Fonso.
En France, le programme national Nutrition Santé conseille 3 produits laitiers par jour pour leur apport en calcium, phosphore et potassium, extraits d'un spot publicitaire où les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
C'est bon ou tu la veux en rap ?
Le lait est à la fois un aliment apprécié mais critiqué et de plus en plus contesté sur ses bienfaits pour la santé. Déconseillé aux adultes, recommandé aux enfants, le lait provoquerait allergies et maladies. Le professeur Henri Joyeux de l'Institut du cancer de Montpellier assure que l'humain est le seul mammifère qui prend le lait d'une autre espèce et le boit jusqu'à l'âge adulte. Et d'après lui, il a tout faux. L'oncologue s'attaque au controversé lait de vache lors d'une de ses conférences.
Et n'oubliez pas une chose, c'est que le fromage et en particulier le lactose, nous le stockons, nous les hommes, autour de la prostate, en gras, et les femmes dans les seins. Donc seins pour les femmes, bassins pour les hommes. Augmentation des cancers de la prostate chez l'homme, augmentation des cancers du sein chez la femme.
Pour enrayer l'effritement des ventes et conquérir de nouveaux marchés, on produit des laits qui n'en sont pas. Lait de soja, d'amande, de noisette, d'avoine ou même de noix de coco, ces laits végétaux ne contiennent pas de lactose et sont donc mieux tolérés sur le plan digestif. Evelyne Loison a vendu toutes ses vaches pour devenir productrice de lait d'avoine, une céréale qui devient très populaire.
J'avais à peu près 50 vaches laitières, donc c'est quand même un travail 7 jours sur 7, hein, tout le monde le sait. J'avais vraiment envie de faire une activité qui me ressemble et que j'avais envie de faire. Un ami un jour m'a suggéré « Pourquoi tu ferais pas du lait d'avoine ?» Et ding, c'est la bonne idée. En tous les cas, c'est ce qui me correspondait.
Du lait d'avoine, c'est évidemment assez étonnant. L'avoine, c'est, rappelons-le, une céréale, hein, Luc Dubanchet. Du lait d'avoine, vous avez entendu parler de ça déjà ?
Oui, mais alors, je sais absolument pas comment on le fait, pour tout vous dire, vraiment.
Alors, est-ce que c'est cette tendance qui fait que le lait, qui est évidemment un élément constitutif, on a tous bu du lait dans notre enfance et c'était riche en calcium, etc., et c'est remis en cause, est-ce que ce sont des phénomènes de mode ou est-ce que ce sont des tendances un peu plus fortes qui veulent rebondir Yerta de Mazière ?
Ouais, je pense que bon, le lait en Finlande, c'est effectivement aussi très très important dans l'alimentation. Par exemple, effectivement, quelque chose qui fait très très bizarre, c'est que les gens peuvent en boire à table aussi avec le repas, du lait. C'est très très courant, même les adultes. Sur le lait aussi, je pense qu'en Finlande, il y a, quand vous allez en Finlande ou dans les pays nordiques en général, quand vous allez acheter du lait, vous allez voir une quantité de lait différente. Donc il y a complètement sans lactose, effectivement avec un peu de lactose, toutes les variétés possibles et imaginables, pour tenir en compte justement le fait qu'actuellement il y a de l'intolérance à lactose, on en parle de plus en plus, etc. Donc en fait, il y a déjà l'industrie laitière qui répond pour que les gens puissent quand même continuer à utiliser le lait, même ceux qui disent qu'ils sont... Bon, je pense que c'est vraiment quelque chose de... assez nordique, une approche nordique qui commence à venir de plus en plus maintenant dans d'autres pays.
Damogit Fumel, c'était vraiment important le lait et il est remis en cause. Qu'est-ce que ça signifie plus profondément?
Vous demandez à des anthropologues de comprendre finalement qu'est-ce qu'il y avait derrière cette consommation du lait. Je crois qu'il y avait le lien à l'animal. Aujourd'hui, le problème, c'est que le lait industriel est produit par des vaches qui sont plus des vaches, parce qu'elles n'ont plus de cornes, elles ont des pics qui sont surdimensionnés, en fait, on les voit plus. Et même au salon d'agriculture, pour la première fois cette année, on a montré une vache écornée. Donc, si vous voulez, toutes les problématiques de sensibilité à l'animal sont complètement niées par l'industrie. Et de ce fait, ça se retrouve devant la suspicion que créent les produits qui viennent de cette industrie dont on n'acceptait pas n'importe quoi. Voilà.
Et donc, c'est vrai que même au salon de l'agriculture, il y a des enfants qui découvrent les vaches et qui sont très surpris. Le rapport entre le lait et la vache, hein, toujours des remarques d'enfants toujours amusantes d'entendre dans les allées du salon de l'agriculture.
Tout à fait. On est vraiment dans le déni de ce que l'alimentation est d'abord un lien avec la terre, vous l'avez souvent dit, mais également avec l'animal.
Avec les animaux. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps des infos, avant de retrouver nos invités dans savoir un peu plus sur ce qui titille les pépilles des Européens. A tout de suite.
Spotkania europejskie.
Krastowiština Europa.
Kuzmion tu da Europa.
Stavrodromitis Europis.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Les Européens ont-ils le goût en partage? Salivent-ils devant les mêmes plats? La gastronomie est-elle une invention européenne du Nord au Sud? La mondialisation a-t-elle unifié leurs goûts? Au contraire, les Européens se sont-ils familiarisés au plaisir culinaire de leurs voisins? Je vous représente rapidement nos invités. Gilles Fumet, enseignant-chercheur en géographie culturelle de l'alimentation à l'Université Paris-Sorbonne. Luc Dubanchet, fondateur et directeur d'Omnivore. Giorgio Ravelli, chef Globetrotter. Il était encore... il y a quelques jours, le chef du Ten Bells à Londres, et Jerta de Mézières, conseillère agricole et alimentation de l'ambassade de Finlande à Paris. Alors avant de reprendre nos discussions, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Jerry Philly, bonjour. Courrier International s'intéresse régulièrement à ce qu'il y a dans nos assiettes. Et bien sûr, la mondialisation de notre alimentation n'a pas échappé à Courrier. On trouve des pizzas et des burgers partout à la surface du globe, mais pas seulement. Le kebab venu d'Istanbul a conquis l'Europe et prospère là où on ne l'attend pas forcément, comme en Pologne.
Absolument, Daniel. Nous avons devant nous un papier de Tygodnik Pojnesny. En fait, véritablement, c'est une ode, un éloge au kebab, ce humble sandwich que souvent les Parisiens, on les connaît tous, après souvent les soirées assez arrosées. Mais en fait, c'est un poème dithyrambique sur ce phénomène. Et j'aimerais juste vous donner quelques citations, c'est absolument merveilleux. L'auteur explique qu'on passe souvent à côté des aspects les plus importants de notre quotidien sans prendre la peine de les décrire. Ils nous suffisent en tant qu'objets, mais qui se soucie de leur donner la parole? Parmi ces objets qui se dotent avec le temps d'une mythologie extraordinaire figure le kebab, le plat le plus universel et le plus global de nos rues. Un champ d'expérimentation culinaire, l'ami des fêtards et le produit de toute une génération. Et il note cependant que c'est aussi le signe emblématique de la transformation post-communiste en Pologne. Alors, la sonorité étrangère des deux syllabes souligne le côté oriental du kebab, un invité venu de contrées exotiques. Kebab est un murmure asiatique à nos oreilles.
Et puis ce qui ne déplaît évidemment pas aux Polonais, c'est qu'on peut l'accompagner d'un petit verre de vodka, ce qui est évidemment toujours agréable.
Absolument, il suffit de traverser le pays en voiture pour se rendre compte qu'il n'est pas plus la caractéristique des grandes villes, mais qu'il est devenu un élément durable de tout le paysage polonais. Il a conquis de manière étonnante la Pologne, et son secret repose dans la promesse de complétude qu'il véhicule. J'explique, tout comme le film Casablanca est, selon Umberto Eco, une anthologie du cinéma parce qu'il est un condensé d'archétypes, le kebab est plus qu'un plat. Il a un accent postmoderne, patchwork de styles culinaires et d'ingrédients empruntés à diverses spécialités.
Courrier International, l'hebdo et courrierinternational.com. Cet article, Jerry, est bien sûr à lire sur le site de Courrier. Alors, pizza, burger et maintenant kebab, la mondialisation, l'uniformisation, c'est le début de la fin ou c'est plus compliqué que cela, Luc Dubanchet?
Ah non, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, la mondialisation, elle peut être positive. Elle n'est pas uniquement négative. Et ce qui est sûr, c'est que, par exemple, pour parler du kebab et de chefs qui se réapproprient cette tradition de rue, c'est toujours fantastique de voir comment justement des grands professionnels dans leur cuisine peuvent travailler, c'est notamment le cas à Istanbul aujourd'hui avec une nouvelle génération de chefs, se réapproprient ces aliments basiques, le pain, la viande, quelques légumes, pour en faire un plat gastronomique qui va ensuite, je crois, avoir aussi une énorme portée dans la société. Donc c'est la mondialisation est évidemment positive dans ce cas-là.
Ouais. Giorgio Ravelli, ça vous viendrait à l'idée d'annoblir le kebab?
Je pense que c'est une très bonne idée et j'ai déjà vu des gens le faire, même ici à Londres, c'est pas vraiment un kebab, mais c'est une espèce de brochette un peu modernisée avec les mêmes produits qu'on utilise pour le kebab, donc pourquoi pas, tout le monde aime le kebab, donc
alors pourquoi pas dans une assiette d'un grand restaurant. Jerta de Mézières, ça vous inspire le kebab, j'ai l'impression?
Oui, parce qu'en fait en Finlande, justement, pour parler de kebab, il y a eu des grands chefs qui ont ouvert des kebabs un peu de luxe, parce que bon, c'est la mode aussi actuellement de street food, etc. Donc même les grands chefs s'y sont mis, et il y a par exemple un kebab par un grand chef finlandais qui fait du kebab d'ours, de la viande d'ours. Donc, effectivement, on peut avoir un approvisionnement de proximité, avoir une quelque chose de très vraiment une cuisine de proximité, donc la viande d'ours.
Mais je m'attendais plutôt à ce que ce soit un kebab d'élan ou un kebab de renne en Finlande.
On pourra avoir sûrement qu'on peut avoir ça aussi, hein, ça. Mais ça me vient juste à l'esprit puisque vous en parlez, mais je suis sûr que vous pouvez en trouver aussi.
Alors Gilles Fumet, ce qu'on constate aussi, c'est que les grandes industries du fast-food, la première d'entre elles, McDonald's, connaissent quelques difficultés. Pour la première fois depuis très très longtemps, les bénéfices de McDonald's sont en baisse. Alors, non pas chuté, mais elles sont en baisse. Est-ce que ça signifie que quelque part, cette fast-food, cette malbouffe recule?
Alors, oui, vous soulignez le fait que donc des firmes, parce que McDonald's c'est une firme américaine. Donc là, on parle de mondialisation américaine, de produits américains qui sont arrivés il y a 35 ans. Hein, donc, ils ont accompli un cycle, on va dire. Et la nouvelle génération qui a connu les piscines de balles dans les McDo, eh ben, on va faire autre chose. Donc, il y a un renouvellement qui est forcément imposé par ces nouvelles générations et par toutes les technologies qui vont avec. Je pense que Luc a souligné le fait que assis à Istanbul, on est en train de revoir un peu les choses. C'est tout simplement parce que nous changeons de société, nous avons des modes de vie qui sont différents, et donc nous avons besoin d'une nourriture qui soit adaptée à nos modes de vie. La street food, si vous voulez, c'est bien quelque chose qui est adapté au fait que nous ne voulons pas consacrer trop de temps à la nourriture, parce que tout simplement l'industrie nous a habitués à une alimentation disponible très facilement, voilà. Et de ce fait, nous allons reconfigurer en fonction de cela les principaux plats, et effectivement le kebab, le burger, tout ça, qui change, hein, plutôt qu'il ne recule, montre bien justement qu'on est en train de basculer vers un autre modèle.
Alors effectivement, les Européens, ou en tout cas les Français, ont-ils changé leurs habitudes alimentaires? Juliette Sauce a promené son micro dans les allées du Salon de l'Agriculture, au lieu, s'il en est, de la rencontre entre le mode agricole et celui de l'alimentation.
Les habitudes alimentaires ont fortement changé parce que il y a la cuisine rapide qui est là depuis un certain temps. Forcément, si on rentre du boulot, on n'a pas de quoi manger, on tombe sur le plus facile à faire, et puis voilà.
Est-ce que depuis 10-15 ans, vos habitudes alimentaires ont changé ou vos plats préférés sont toujours restés les mêmes?
Changé un peu, asiatique le week-end, mais on reste quand même assez français.
Les Français ont découvert déjà un côté Asie qui change, parce que on est un petit peu aussi vers le Japon. Donc ils mangent de plus en plus de sushis, on s'en rend compte. On est aussi dans un côté hamburger, mais complètement revisité, avec des bons fromages français à l'intérieur, des sauces aux épices, des pains améliorés avec des graines. Pour moi, vraiment, on va vers un mix du monde.
Tout est en train de changer, hein. C'est ce que disait déjà Gilles Fumet, c'est ce que confirment les consommateurs et les visiteurs du Salon de l'Agriculture, Luc Dubanchet, c'est la mondialisation a du bon. C'est amusant d'entendre cet attrait pour les cuisines asiatiques. Alors là, c'est vraiment de l'importation en Europe. On savait même pas que ça existait il y a encore 100 ans.
Non, mais c'est aussi, je crois, l'envie des gens de manger des choses qui ont du goût. Et l'industrialisation, encore une fois, a totalement détruit le goût. Et je pense, c'est intéressant, quand Gilles parle de renouvellement générationnel, il est évident, me semble-t-il, aujourd'hui, les 25, 30 ans, 35 ans ont des nouvelles envies, de nouvelles aspirations aussi, à avoir des expériences gastronomiques, culinaires, même si c'est dans la rue, et même si ça coûte 5 ou 6 euros. Et c'est d'abord et avant tout, me semble-t-il, retrouver un goût épanoui et plein, et donc avoir des aliments et des ingrédients de meilleure qualité, peut-être en manger moins, mais manger meilleur.
Est-ce que c'est une tendance forte? Est-ce qu'on a tendance à manger de mieux en mieux?
J'ai l'impression que partout où je voyage, il y a une vraie attention à ce qu'on ingurgite. Voilà. C'est pas forcément massif, c'est pas global. On continue de manger mal dans beaucoup de pays, parce que c'est l'industrialisation, parce que le temps, parce que l'absence de volonté. Mais néanmoins, quand même, j'ai l'impression que les nouvelles générations mondiales, pour le coup, ont une vraie, on voit un vrai intérêt dans ces aliments et dans ces ingrédients qui font sens, qui nous relaient aussi, bien sûr, relient à un problème d'environnement. On sait très bien que la planète épuise ses ressources et qu'il faut aussi faire très attention à cela. Et je pense que politiquement, on est peut-être un petit peu plus engagé malgré tout là-dedans, et que en même temps, on a aussi envie de se faire plaisir réellement et pas manger du surgelé ou des choses qui sont sans intérêt.
Alors, est-ce que les food trucks sont l'illustration de ce bien manger avec cette contingent, cette contrainte qu'il faut manger relativement vite. Les food trucks, il faut expliquer pour peut-être nos auditeurs qui n'en ont jamais
mangé vite. C'est-à-dire que on va pas plus vite dans cette société. Je veux dire, Gilles parlait tout à l'heure de volonté. On peut avoir la volonté de prendre son temps aussi et de faire du slow. On n'est pas obligé de faire du fast. Et je crois que la génération qui arrive sans doute fait plus de slow ou a plus envie de faire du slow que du fast.
Le slow food de Giorgio Ravelli, c'est une invention italienne, hein, je crois.
Ouais, exactement.
En quelques mots, cette idée du slow food.
Mais c'est un moyen de nous rapprocher aux produits de régional, de produits qui ont été oubliés. Et je pense que c'est très très important aujourd'hui parce que ils nous disent de manger mieux des choses qui ont voyagé pas trop et qui viennent de loin.
Est-ce que vous diriez que c'est un point commun aux Européens, vous qui avez fait le tour d'Europe de la cuisine? On retrouve cette idée à Berlin, en France, en Italie, à Londres, un peu partout?
Oui, oui, bien sûr.
Yerta de Mezière, en Finlande aussi, on a envie de manger un peu plus lentement. Et peut-être ainsi, c'était pas très important quand même. Le repas de midi en Finlande, on mange un sandwich, on mange rapidement, historiquement, non?
Non, nous on mange pas de sandwich. Ah, Nous, c'est un vrai repas, même à l'école. C'est un repas gratuit, d'ailleurs, qui est servi à tous les écoliers en Finlande. Donc, non, c'est un vrai repas. Mais je pense que le consommateur, en général, actuellement, a un vrai dilemme entre le prix. C'est-à-dire qu'il y a, l'importance du prix. Les gens, veulent faire les économies. Mmh. Mais aussi la volonté de savoir ce qu'ils mangent. Que ça soit qu'on mange dans un food truck ou on mange dans un restaurant ou à la maison, etc. Donc c'est pour ça cette volonté d'aller acheter chez le producteur, volonté de préparer soi-même parce que du coup on sait exactement ce qu'on a mis dedans, volonté aussi d'aller restaurant, de voir qu'est-ce qui est mis dans le fait que les chefs travaillent en plein milieu du restaurant, etc. Il y a beaucoup de restaurants comme ça, et toute cette volonté là de savoir justement qui n'a pas des trucs artificiels, etc. Et je pense que le fait que l'industrie agroalimentaire, effectivement, comme vous avez dit avant, a un peu perdu le goût dans certaines choses, et que les gens ils sont trop mangés des choses qui n'ont pas de goût. Et il y a le contrepartie qui revient maintenant, cette volonté d'avoir le goût, mais volonté de savoir aussi d'où vient le produit. Et ça, c'est vraiment une tendance quand même très, très, très importante actuellement, au moins en Europe.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo. Quand on sera gros,
on est foutu, on mange trop.
Papa Mambo,
on est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo,
on est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop. Papa Mambo,
on est foutu, on mange trop.
Roulait des hanches en douceur, chanteur, dans son habit cœur, belle minceur, le poster fatal au-dessus du lit. Mais la petite fille d'alors, elle a grossi, elle a groupie, fait de la bonne cuisine. Le chanteur a débordé de son jean, nous v'là jolie, nous v'là beau. Tout en pâté, pâteau, par les pâtés, les gâteaux, nous v'là beau, nous v'là jolie. En kilos et soumis sous les kilos de calories, on est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop. Papa Mambo.
On est foutu. On mange trop.
Carrefour de l'Europe que mangent les Européens, à l'évidence un peu trop, nous dit Alain Souchon. Nous sommes avec Gilles Fumet, enseignant-chercheur en géographie culturelle de l'alimentation à l'Université Paris-Sorbonne, avec Luc Dubanchet, fondateur et directeur d'Omnivore, omnivore.com, avec Giorgio Rabelli, chef globetrotter. Il y a quelques jours encore, il était le chef du Ten Bells à Londres, il est en ligne de la capitale britannique, avec Yerta de Mazière, conseillère agricole et alimentation de l'ambassade de Finlande à Paris. Luc Dubanchet, un petit mot sur les food trucks qui sont quand même à la fois, on les trouve partout, et c'est quand même relativement nouveau comme concept. On connaissait par exemple dans le nord de la France des baraques à frites ou des baraques à chichi peut-être dans le sud de la France, des baraques à gaufres parfois. Et là, il y a un concept tout à fait nouveau, des food trucks. C'est venu comment ces food trucks qu'on trouve maintenant presque partout en Europe, en tout cas je crois.
Hein. Des camions à manger, comme on dit à Montréal, ce que je trouve un très très joli mot. Ce qui est amusant, c'est que c'est justement une culture nord-américaine et très américaine qui vient en Europe peut-être 20 ans après. Et la transformation est intéressante, notamment à Paris, sur la qualité de ce qui est servi dans les food trucks. Alors c'est déjà aussi le cas aux États-Unis, hein, il y a des food trucks de très grande qualité, mais je crois qu'en fait le food truck c'est un moyen pour un chef qui n'a pas forcément d'argent pour ouvrir un restaurant de se lancer dans de la restauration directe avec la clientèle et de travailler sur, pareil, toujours la même chose, des bases de produits. Dans un food truck c'est quoi? C'est effectivement 4 ou 5 éléments assemblés. Il faut que ces 4 ou 5 éléments soient bons, que la salade ait du goût, que le pain ait du goût, que la tomate ait du goût, qu'elles sont, on essaie d'être en saison aussi. Donc il y a une vraie créativité qui voit le jour. Je pense qu'elle va exploser, notamment dans toutes les capitales européennes, parce que c'est un bon média entre le public et la cuisine, tout simplement, et que ça s'impose comme ça, naturellement, dans les esprits.
Georges Rabelli, vous avez quitté le Ten Bells il y a quelques jours, vous allez ouvrir un restaurant, vous avez imaginé d'ouvrir un food truck, un camion à manger, comme, j'aime bien, je connaissais pas l'expression et je l'aime beaucoup, comme vient de nous l'expliquer Luc Dubanchet, ou non, comme vous préférez quand même un vrai restaurant.
Ouais, c'est ce que je pensais maintenant, parce que je pourrais le faire avec moins d'argent, peut-être avec quelques centaines de livres. Ouais, de livres, mais c'est un truc qu'on voit beaucoup beaucoup à Londres. Je pense que ça a explosé. Vous dites que c'est un truc qui vient du Nord d'Amérique, mais ici on le voit dans les rues où il y a des bureaux, donc les gens ils cherchent quelque chose à manger l'après-midi. Et on le voit dans les petits marchés et c'est explosé.
Alors Gilles Fumet, on en vient tout doucement à la gastronomie. Est-ce que ce sont les Européens qui ont inventé la gastronomie?
Non, ce sont eux qui ont inventé le mot, mais vous poseriez la question à un Chinois, vous pourriez renvoyer rapidement dans la soupe. Hein. Non, donc je crois que la gastronomie, c'est effectivement à un moment donné de l'histoire, donc nommer quelque chose qui est un rapport à la nourriture particulièrement passionnel, voilà, et que les Français l'ont fait au début du 19e siècle. Cela dit, non, il y a énormément de modes de gastronomie, même s'il est vrai que les deux grands pôles gastronomiques dans le monde, que sont la Chine et l'Europe occidentale, bon, c'est indéniablement des endroits où cette obsession culinaire est ancienne et liée à la médecine, liée à un rapport à l'agriculture qui est quand même très particulier. Mais je pense par exemple à l'Italie qui n'a pas connu de monarchie, qui n'a pas connu notre histoire culinaire, qui développe une cuisine qui est radicalement différente de la nôtre, mais dont on ne peut pas dire qu'elle n'est pas aussi gastronomique.
Est-ce que la gastronomie est en train de se démocratiser, Luc Dubanchet? C'est un petit peu votre combat, Omnivore.
C'est un combat depuis une dizaine d'années. Il se trouve qu'on a été un peu en avance en France et qu'aujourd'hui, les choses se réalisent depuis maintenant 5 ou 6 ans. Je crois mondialement aussi, la gastronomie, oui, se démocratise. Les chefs et les restaurants qui ouvrent sont plus accessibles. On peut bien manger aujourd'hui pour une quinzaine ou une vingtaine, une trentaine d'euros de manière gastronomique. Moi, c'est un mot que j'aime parler énormément, mais
alors,
en tout cas...
Parce que justement,
je sais pas, en tout cas de qualité gustative, qualité de mets, voilà. Enfin, c'est une cuisine, me semble-t-il, la cuisine créative d'aujourd'hui travaille justement avec
le bien manger créatif, ce serait bien.
Oui, mais en tout cas. Manger bien et cuisiner bien, quoi. En tout cas, et que ça soit bon, c'est aussi cuisiner et on revient au départ avec des ingrédients qui sont aussi moins chers, qu'on ne fait pas venir de 500 ou 800 ou 1000 kilomètres, mais qui sont des ingrédients locaux, donc qui ont un coût qui est moindre. Et on s'est aussi aperçu au milieu des années 2000 qu'on pouvait cuisiner une sardine ou un maquereau de manière gastronomique, et que ça pouvait avoir un goût formidable si tant est que le chef sait le cuire, parce que c'est aussi on n'a pas parlé de cuisson, mais c'est aussi un point essentiel. Cuire un aliment, c'est déjà lui donner un peu plus de talent, quoi. Voilà. Et donc la cuisine aujourd'hui a ce talent de faire avec des ingrédients peu chers, assez peu d'ingrédients d'ailleurs, des plats de qualité et des plats gustativement très 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 forts, quoi.
Giorgio Ravelli, ce que vient d'expliquer Luc Dubanchet, cuisiner avec des produits simples, peu chers, mais avec talent, c'est votre ligne de conduite. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous pratiquez.
Ouais, ce que j'ai fait au Tembels pendant 3 ans, faire des assiettes, disons, disponibles pour tout le monde avec des produits soit anglais, parce que on est à Londres. On doit utiliser ce qu'on a ici.
Alors c'est quoi les produits anglais? Faites-nous saliver un instant.
Bon, déjà on a la mer partout, donc il y a des produits de poissons fantastiques. Et il y a aussi une viande que on trouve pas dans le reste de l'Europe, une viande si bonne comme l'agneau par exemple du Yorkshire, et aussi le bœuf. Même si l'industrie du bœuf maintenant un peu a eu des problèmes en Angleterre, mais on est en train
d'arranger tout ça,
de retrouver. Ouais, d'arranger, mais il faudra un peu de temps.
Alors, Giorgio Ravelli, puisque vous êtes en ligne de Londres, ça a été longtemps une ville épouvantable. On se dit, c'est très difficile de manger plus mal qu'à Londres. Tout ça, ça a complètement changé. On mange maintenant très très bien à Londres.
Ouais, avant peut-être c'était même une blague. Une blague, on disait... je vais manger en Angleterre, les gens disaient « manger quoi ?» Mais non, c'est changé complètement depuis... bon, moi, je suis ici depuis une dizaine d'années, mais je pense que ça a commencé vers la fin des années 90 peut-être, avec l'aide des chefs, des cuisiniers étrangers, des Français, qui ont amené leur capacité à Londres, qu'ils ont commencé à changer aussi la cuisine, mais aussi à offrir quelque chose de meilleur.
Dans les assiettes. Luc Dubanchet, où est-ce qu'on mange le mieux en Europe?
Alors, je suis incapable de vous dire, parce que je pense qu'on mange très très bien partout en Europe, et il n'y a pas aujourd'hui une grande capitale européenne qui ne soit pas intéressante. Je pense que, alors peut-être, la partie Est reste encore un peu compliquée, sans doute, mais voilà, du Nord au Sud, aujourd'hui, il y a dans chaque ville des restaurants absolument passionnants, vraiment, et avec des chefs qui sont comme Giorgio Ravelli, autour d'une trentaine d'années, et qui sont nés dans l'inspiration d'un certain nombre de chefs, oui, français, européens, internationaux, et qui se sont construits aussi sur leur propre histoire, et c'est ça qui est aussi passionnant.
Alors, par exemple, on a découvert, c'était une dizaine d'années, peut-être même un peu moins, la cuisine nordique, un des meilleurs restaurants en Europe, alors c'est toujours difficile de dire le meilleur, et à Copenhague, par exemple.
Oui, Noma, mais Noma et René Redzepi est venu sur la scène du Festival Omnivore en 2006, vous voyez, donc on était les premiers à l'accueillir, et ça a été une vraie vague, et il faut remercier le nord de l'Europe d'avoir aussi peut-être remis les chakras français, aligné les chakras français sur une cuisine cueillette, une cuisine plus pauvre, plus vivrière, on va dire, mais qui est aussi essentielle, une cuisine de l'essentiel.
Ce que pratiquent les Finlandais, évidemment, Yertan Mazière.
Oui, effectivement, le goût, vraiment, d'être proche de la nature. Vraiment, on revient toujours au thème. Bon, pour les Nordiques, c'est essentiel que ça soit dans le design, mais que ça soit aussi sur l'assiette, que ça soit dans ce qu'on mange.
Alors, il y a aussi une région, et auquel, en préparant un peu cette émission, je me suis rendu compte qu'on mangeait très très bien dans le Pays Basque espagnol.
Bien sûr. Historiquement, c'est un bassin fantastique. Il y a la montagne, il y a la mer, il y a, alors pour le coup, une culture très très forte, familiale de la cuisine. Oui, bien sûr.
Là, on rejoint la géographie.
Eh ben, on rejoint la géographie, mais ça, bien entendu, chaque fois qu'on a un territoire riche, on a des pratiques et une culture qui sont aussi riches et qui perdurent très très longtemps. Et le Pays Basque, qui en plus politiquement est un point sensible, a aussi, je crois, c'est une manière de résister, c'est une manière d'affirmer une identité très forte, et c'est le cas du Pays Basque.
Alors, je crois qu'au Pays Basque, il concentre au kilomètre carré le plus grand nombre d'étoiles du Michelin ou quelque chose comme ça.
C'est possible, et en tout cas, il concentre sans doute le plus grand nombre de restaurants, de petites affaires familiales, même de restaurants qui appartiennent à des groupes comme ça de personnes qui vont cuisiner tous les week-ends. Il y a à Saint-Sébastien, comme ça, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine de restaurants d'associations où on fait les mariages, où on fait des grands événements. C'est un symbole social très très fort là-bas.
Et on va quand même un mot sur la France. Comment se situe la France, qui est évidemment au top, au sommet, toujours au sommet ou...
Non, la France, elle se situe aujourd'hui dans le, parmi toutes ces nations passionnantes qui travaillent sur leur identité culinaire. Elle n'est pas mieux, pas moins. Elle n'est plus l'impératrice et je pense que c'est une très bonne chose. Elle est redescendue de ses limbes, comme ça, pour être beaucoup plus réaliste et partager avec tous les pays européens la même passion et la même culture, la même façon d'avancer aussi dans la cuisine.
En Europe, il y a un duel entre la France et l'Italie ou pas?
Il y a toujours un petit peu de duel, mais pourquoi opposer les cuisines? La cuisine, ça devrait pas être nationaliste, vous voyez. La cuisine, ça devrait être et ça doit être un langage commun, un langage de partage et surtout pas des oppositions. On doit pas sortir les drapeaux les uns contre les autres. Je trouve ça parfaitement ridicule. Et c'est aussi quelque chose qui a été énormément entretenu par les grands chefs français, ce qui, à mon avis, est une profonde erreur.
Un endroit où vous aimeriez aller, vous quittez ce studio, vous aimeriez dîner dans quel pays, dans quel restaurant en Europe?
Mais moi, j'aurais bien aimé aller faire le dernier repas du Ten Bells chez Giorgio, parce que c'est vraiment un cuisinier fantastique, réellement, sur Commercial Street à Londres.
Et ouais. Donc, Giorgio Rabelli va ouvrir un restaurant, on ne sait pas exactement quand, mais en tout cas, ce sera forcément une bonne adresse.
Oui, et puis il sera présent aussi au Festival Omnivore.
Alors, on va dire un petit mot sur ce Festival Omnivore. Ça commence quand? Ça dure combien de temps? Comment on peut y participer?
Ça commence le 8 mars jusqu'au 10 mars. C'est 3 jours de masterclass. On a 100 invités. Ce sont les 10 ans du festival à la Mutualité à Paris. Et ce sont 100 chefs, 100 artisans, 100 pâtissiers qui viennent faire des démonstrations, comme des masterclass de musique ou de cinéma, devant le public. Vous pouvez y participer simplement en vous inscrivant sur le site omnivore.com.
Voilà, on s'inscrit, on paye un droit d'entrée.
Absolument. Et puis vous pouvez venir partager pendant 3 jours ou une journée
ce qui se passe de mieux. On goûte un peu.
On voit, on goûte, on rencontre, on partage, on apprend. Je pense que c'est un festival qui est vivant.
Merci à tous les cas d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Luc Dumanchet, je rappelle évidemment votre festival, puis le livre qui vient de sortir.
Omnivore Full Book, on va retourner aussi le 8 mars.
Ah, voilà, donc je préfère que ce soit que vous le lisiez, parce que vous le lisez dans le bon sens. Moi j'ai tendance à le dire dans le mauvais sens. La réalisation de cette émission, Sophie Jeannin, sur la page de Carrefour de l'Europe, plein de choses vous attendent. Par exemple, le podcast et les références de nos invités. Tout cela via RFI.fr et bien sûr les applications tablettes et smartphones de RFI. Sans oublier bien sûr les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, pour rester en contact. Daniel Escalou, que vous soyez à Paris, à Londres, à Helsinki, ailleurs dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.